C'est un podcast Vivre FM.
Inspirez-vous. Frédéric Loto.
Bonjour à tous, bienvenue dans Inspirez-vous sur Vivre FM ce matin pour parler de développement durable. Alors c'est un peu à la mode, hein. Il y a COP15 en ce moment à Montréal, ça parle pas exactement de ça, mais quand même c'est proche. Nous on va en parler dans un cadre très particulier, celui du secteur médico-social. Vous connaissez tous au moins une des déclinaisons du médico-social que sont les EHPAD, mais il y a aussi bien d'autres disciplines entre guillemets dans ce domaine-là. Comment on réalise des économies d'énergie, comment on traite ces déchets, comment on arrive à rendre ces grosses machines green, comme on dit. C'est le moment ou jamais d'en parler, d'abord parce que c'est dans l'air du temps, et puis ensuite parce que les économies, on a besoin d'en faire. Les prix augmentent, et notamment dans ces secteurs où des règles sanitaires, des règles de sécurité, des règles de protection des plus fragiles sont évidemment en vigueur, et on ne peut pas sacrifier ces personnes-là sur l'étal des économies et puis du développement durable. Donc on va en parler avec plusieurs invités. Didier Arnal sera avec nous par téléphone, c'est le directeur de la prospective chez Nexem, c'est le syndicat des employeurs de ce secteur, quatrième ou cinquième secteur d'ailleurs qui emploie des gens en France. Emmanuel Afonso, le directeur général des Papillons Blancs de la Seine-Maritime, qui sera également avec nous par téléphone. En studio, j'ai la chance d'avoir Catherine Perret, la référente développement durable de la Fondation Léopold Bellan. Bonjour Catherine.
Bonjour à vous.
Et puis Richard Huette, qui est le chargé de mission développement durable au GAPAS. Il nous expliquera ce que c'est que le GAPAS. Bonjour Richard.
Bonjour.
Bon, merci d'être au chaud avec moi tous les deux dans ce studio. Nous aurons en dernière partie d'émission Céline Moser, qui est la responsable RSE. Elle nous dira aussi ce que c'est de la Fondation Œuvre Village Enfant, la Fondation OVE. A tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous.
Inspirez-vous. Frédéric Loto.
Didier Arnal est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Merci d'avoir pris un petit temps sur votre planning un peu chargé. Vous êtes le directeur de la prospective de Nexem. On vous connaît quand même un peu sur cette antenne, puisque vous êtes notre expert en matière de développement durable. Le mot prospective est intéressant pour poser le décor. Quel est l'enjeu de ce secteur qui est l'un des plus gros employeurs de France et puis qui est aussi un secteur où il y a beaucoup de techniques? On chauffe, on utilise, on consomme. Quelle est votre vision? Allez, jusqu'à 2030 pour arriver à faire en sorte que d'un côté, on ait des économies, de l'autre côté, on soit green. Et puis sur le troisième côté, on préserve quand même les services donnés aux bénéficiaires de l'ensemble de ces structures.
Mais Frédéric, je crois que vous avez résumé dans votre question la problématique qui se pose à notre secteur, mais comme à tous les secteurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un secteur à part, nous sommes un secteur qui a les mêmes besoins que celui de l'industrie, que celui du bois, que celui... et je dirais, à la limite, presque plus. Parce que dans notre secteur, quand on parle de qualité de vie ou de qualité d'accompagnement ou de qualité de l'environnement, ça résonne quand même aux oreilles à la fois des salariés, à la fois des personnes accueillies, à la fois des familles. Et quand on parle d'éthique, également, ce sont des mots qui résonnent. Et je crois que c'est très important. Et donc l'enjeu, c'est ce que nous avons démarré à Nexem, effectivement, de prendre une feuille de route, un certain nombre d'engagements et effectivement de mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Et là, c'est la grosse tâche à accomplir. Mais elle est passionnante et motivante. Donc oui, on va réussir tout ça.
C'est ça, parce qu'entre l'idée et l'exécution, il y a un petit...
Il y a 3-4 ans, on n'aurait pas fait ce genre d'émission. Donc merci Frédéric de faire ce genre d'émission. Ça montre bien que les choses évoluent.
Alors on est spécialiste sur Vivre FM de faire des émissions que les autres ne font pas. Vous le savez très bien, Didier. Le plus dur, c'est ce que vous dites. C'est de l'idée à la réalisation, c'est de convaincre un certain nombre d'acteurs. Et on parle de beaucoup, beaucoup d'acteurs. Là, on parle de combien de structures?
Sur le secteur médico-social, il y a deux parties, si je puis dire. Il y a ce qui nous concerne, nous, Nexem, et on est autour de 10 000 structures, établissements ou services, fondations, SCOP, enfin, donc ce n'est pas rien, hein, c'est un peu plus de 300 000 salariés, c'est une fois et demie le nombre de personnes accueillies également, et sur l'ensemble du secteur, on est là aussi sur des chiffres impressionnants. Je crois qu'il y aura dans l'action, il y a deux priorités fortes immédiates. C'est tout ce qui touche au bâti, aux structures, aux établissements, aux services qui ont besoin à la fois effectivement d'une mise aux normes, entre guillemets. Donc, j'hésite à employer ce terme parce qu'aujourd'hui il est quand même fortement connoté. Donc cette mise aux normes, la deuxième priorité très forte, c'est tout ce qui touche aux mobilités. Et je dirais bien en rajouter une qui est liée à ces deux priorités, qui est le contexte et la situation économique et le coût de l'énergie dans nos structures.
Vous avez, certes, vous, Didier Arnel,
nous avons un bouclier tarifaire, mais il ne va pas être éternel. Je pense que par contre, le prix de l'énergie risque d'être encore pendant plusieurs années élevé. Donc ce sont les enjeux à très court terme que nous devons... Alors tout ça passe par, je le disais tout à l'heure, une feuille de route qui va commencer par sensibiliser tout le monde, enfin expliquer, parce que c'est une question que vous n'imposez pas, c'est une question qu'il faut à la fois sur laquelle il faut faire œuvre de pédagogie, à la fois il faut débattre, discuter, expliquer, parce qu'on voit bien que l'enjeu fait qu'il va falloir tenir cet équilibre très subtil entre ce qui est nécessaire de faire parce que la réglementation évolue, parce que les financeurs vont avoir des exigences sur ces enjeux-là qu'ils n'avaient pas hier, parce que nous sommes engagés dans un certain nombre d'accords européens, internationaux, enfin bref, vous connaissez très bien tout ça. Donc à la fois avancer sur ces questions-là et à la fois tenir l'équilibre avec, je dirais, ce qui est acceptable socialement et économiquement.
Comment fait-on, Didier Arnal, pour passer non pas par le 49-3 du médico-social, quelque part, c'est-à-dire par l'imposition, mais par l'incitation, avec des personnels qui sont réduits? On le sait aujourd'hui, les structures manquent de personnel, manquent de formation, manquent de perspectives aussi. Et donc, ces gens-là ont le nez dans le guidon. Comment on peut leur apprendre, quelque part, les bonnes pratiques et les inciter à les mettre en place?
Mais c'est tout l'enjeu de la démarche que nous avons engagée. C'est à la fois faire œuvre de pédagogie très forte, de dialogue, de discussion. Et puis aujourd'hui, il y a des outils pour aborder ces questions-là, ces sujets-là, en sachant qu'effectivement, il y a, en lien avec tout ça, ce que vous disiez, c'est-à-dire la nécessité d'être un secteur attractif, la nécessité de pouvoir recruter, ce qui est très difficile au jour d'aujourd'hui, la nécessité de pouvoir rémunérer dans de bonnes conditions les salariés de ce secteur. Mais tout ça est très lié, étroitement lié. Et je pense que c'est par un dialogue et redonner du sens à notre action de tous les jours, à notre engagement de tous les jours, que, et puis sur certaines questions, effectivement, il faut être sans concession. Je pense aux aspects financiers. Il y a une série d'investissements dans les 5 ans à venir qui peuvent être faits avec de nombreux financements européens, français, régionaux. J'étais dans une commission là justement qui travaillait sur l'implication de l'Europe sur le financement de ce transfert, ce passage à une économie du développement durable, enfin bref, cette transition écologique qui est indispensable et nécessaire. Il faut effectivement que là aussi on mobilise nos adhérents sur le fait de déposer dans chacune des régions un certain nombre de plans pluriannuels d'investissement sur ces questions-là, sur ces sujets-là. Et peut-être il y a des redéploiements de financement possibles. Donc, en tout cas, s'il y a une question essentielle, parce qu'on voit bien, j'entends aussi vos remarques qui sont justes et qui expriment ce que pense, entre guillemets, le terrain. On a d'autres priorités, on a d'autres préoccupations. Boucler la fin de l'exercice avec ce qu'on a connu sur l'explosion du coût de l'énergie, avec le fait qu'on n'arrive pas à recruter. On connaît les préoccupations quotidiennes, le quotidien, mais je crois que c'est à notre responsabilité, la responsabilité d'une organisation comme la nôtre, d'être en mesure de faire de la pédagogie, de l'explication, pour accompagner, aider, soutenir nos adhérents dans cette transformation.
Alors, adhérents à votre syndicat ou non, ce n'est pas la question. Mais nous avons Emmanuel Afonso, qui est le directeur général des Papillons Blancs de Seine-Saint-Denis. Et bonjour Emmanuel.
Bonjour, de Seine-Maritime, 76.
Seine-Maritime, pardon, j'avais bien noté Seine-Maritime, j'ai dit Seine-Saint-Denis, on est vendredi, la fatigue commence à se faire sentir. Alors vous n'avez pas attendu de nouvelles directives ou voilà, un élan qui soit impulsé par Nexem ou par d'autres. Vous êtes quelque part un exemple et vous êtes celui que j'ai trouvé qui est le plus ancien, puisque vous avez gagné déjà le prix national du développement durable dans ce secteur-là en 2014. À quel moment et comment avez-vous actionné ce virage ?
On a actionné ce virage avec, et je reprendrai votre question sur comment finalement on intègre une dynamique. Nous, on a intégré ce virage via les enfants et les adultes que nous accompagnons. Ils nous interrogeaient grandement sur, voilà, il y a une sortie en forêt, pourquoi il y a des déchets, et on avait des questions assez importantes, et on s'est dit comment on peut répondre finalement au niveau global à cette question du développement durable. Donc on a une méthode très ascendante avec, en partant des équipes, des professionnels pour pouvoir les embarquer dans cette thématique. Donc en 2014, on a inscrit ça dans le projet de notre association comme comme un projet ambitieux. Et à partir de ce moment-là, toutes nos thématiques, qu'elles soient stratégie immobilière, mobilité, achat, tout est questionné sous l'angle du développement durable. On a, dès 2014, intégré aussi des usagers dans des commissions sur ces thématiques. On a un travailleur qui est en ESAT et qui nous apporte en fait une expertise. Il n'est pas là dans la commission pour se dire il y a un usager qui participe. Il est vraiment acteur avec, par exemple, un recours à la paille de lin qui est d'origine locale pour remplacer les produits phytosanitaires.
Et alors, est-ce que le mouvement était facile à initier ? C'est-à-dire, vous, là, vous associez un peu tout le monde, et c'est bien aussi d'associer les personnes concernées avec une véritable envie d'utilité. Hein. Ce n'est pas juste pour faire joli dans le décor. Mais est-ce que c'est simple que tout le monde ait cette puce à l'oreille en permanence et que ça débouche surtout sur des choses concrètes qu'on essaime ensuite ? Parce que ce n'est pas parce que l'un pense un truc que les autres le pensent et le font.
Très difficile au départ. En 2014, ce n'était pas... comme aujourd'hui, un questionnement qui est quasiment hebdomadaire dans les médias et autres, très compliqué en interne dans le conseil d'administration de se dire bah, pourquoi on va sur ce sujet-là. Donc il a fallu convaincre en interne, très compliqué pour les financeurs qui ont une logique dans notre secteur plutôt souvent annuelle et on est plutôt sur du court terme. Et donc là, il fallait s'interroger sur du long terme sur les projets. Donc arriver à convaincre, et sont en fait les réalisations qui ont permis aussi de convaincre, de se dire on améliore le confort, dès qu'on isole un bâtiment, on gagne aussi en qualité d'accompagnement sur le gaspillage, la sensibilité, et donc c'est avec des résultats finalement qu'on convainc.
Didier Arnal parlait, effleurait le thème de l'argent, de l'économie. Vous pensez là, depuis 2014, avoir réalisé au final des économies, quitte à avoir refléché peut-être certaines ressources, pas forcément investies, mais est-ce que vous avez mesuré en fait cet impact aussi ?
On l'a mesuré, mais il est difficile sur certains thèmes. Quand on prend la reconstruction d'un bâtiment, ce qu'on a pu faire avec... des récupérations d'eau de pluie, des panneaux photovoltaïques. Ce qui est très compliqué quand on reconstruit, par exemple, c'est on amortit sur 30 ans un établissement, et c'est de se dire quel est le coût de l'énergie aujourd'hui, quel sera-t-il dans 30 ans. Et à un moment, la courbe, de toute façon, se croise, mais elle est difficile à estimer. En tout cas, oui, on a pu faire des économies d'énergie, ça c'est clair, et on commence à amortir.
Alors qu'elle était même difficile à estimer il y a quelques mois avec l'atterrissage qu'on a aujourd'hui, puis c'est pas fini. Didier Arnal, est-ce que vous arrivez à mesurer à l'échelle des adhérents du syndicat des éventuelles économies ou des réserves peut-être qui peuvent être faites grâce à ça pour aller sur d'autres sujets et toujours avec une idée d'amélioration du confort et de la vie des usagers ou des résidents ?
Non, la question financière sera toujours difficile et tendue, mais je crois que c'est à la fois par, je répète, mais je crois que c'est important, c'est-à-dire discuter, échanger, le dialogue, également avec les financeurs. L'intervenant précédemment l'a indiqué que les financeurs ont parfois des difficultés à comprendre. Je crois que c'était vrai hier, ça va l'être un peu moins tous les jours, un peu plus, je crois. Et donc, Raison de plus pour des organisations comme les nôtres d'être en mesure de présenter des projets, des ambitions, des initiatives et la volonté d'avancer sur ces questions-là.
Comment réagissent les politiques? Alors Didier Arnal, on a un exemple un peu flagrant. On a Sandrine Rousseau qui va arriver dans quelques minutes, pas loin du studio du Vivre FM, mais qui a refusé de parler ce matin. Bon, a priori pour une question de temps, mais c'est peut-être aussi que le sujet n'est pas très prégnant, il n'est pas suffisamment macro peut-être pour elle. Comment les pouvoirs publics aujourd'hui sont prêts à accompagner ce mouvement qui va demander du temps, de l'argent, de la mobilisation? Et notamment à travers ce que vous appelez les financeurs, parce que quand les agences régionales de santé doivent financer ce genre de programme, ça passe par une décision politique.
Là aussi, la partie est loin d'être gagnée, mais les esprits évoluent tous les jours un peu plus. C'est vrai chez les responsables politiques, c'est vrai... Alors après, je mets de côté les questions de politique politicienne. Hein. Mais moi, par exemple, et je ne veux pas être... un défenseur de qui que ce soit, mais je trouve que la manière dont Christophe Béchu s'est saisi de ces sujets, de ces enjeux, de ces questions-là, et amène des réponses, avec la bataille qu'il a à conduire en interne, y compris contre Bercy. Franchement, je trouve qu'on a là, peut-être, j'espère qu'on ne sera pas déçus, mais un interlocuteur qui s'est vraiment saisi du sujet et de la question. Parce que vous avez raison, à un moment, la bataille, elle se conduit au Parlement et elle se conduit au moment du vote des budgets, des projets de loi de finances. C'est là où la bataille, notamment sur 2023 et 2024, va être importante. Et je pense qu'il y a là à conduire un certain lobbying. On a aussi à entrer en contact très rapidement avec les régions, parce que vous savez que les régions, depuis 2014, sont les opérateurs... en matière de financement européen. Et il y a quand même des enveloppes en juillet 2022, conséquentes qui ont été votées. Après, il faut... alors je sais, c'est toujours administrativement lourd, compliqué, tatillant, mais il faut s'engager dans cette procédure qui nous permette d'aller chercher, déposer dans toutes les régions des dossiers, des projets, des demandes de financement en lien avec la transition écologique, bien sûr.
Merci Didier Arnal.
Il y a un très gros travail d'ingénierie à fournir par des organisations du secteur,
merci.
Y compris jusqu'aux associations.
Enfin, Didier Arnal, je vais être obligé de vous couper, je suis désolé. Je vous remercie beaucoup d'avoir lancé ce thème et de belle manière. Alors, on va faire une courte pause musicale sur Vivre FM. On va se retrouver dans Inspirez-vous, spécial développement durable et secteur médico-social. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que les deux sont compatibles? On va continuer d'en parler jusqu'à 10h avec nos invités sur Vivre FM.
Vivre FM.
La radio de toutes les différences.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire un oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire un
Inspirez-vous, Frédéric Loto.
On s'inspire ce matin sur Vivre FM en matière de développement durable sur le thème du médico-social. Je reviens à mes invités en studio parce qu'ils ont quand même fait l'effort de venir affronter le froid, la neige, tout ça. Richard Huette, le chargé de mission développement durable du GAPAS, et puis Catherine Perret, la référente développement durable de la Fondation Léopold Bellan. Ce ne sont pas forcément des organisations qui sont connues du grand public, mais vous êtes déjà engagés l'une et l'autre dans cette démarche. Alors, un peu plus récemment qu'Emmanuel Afonso qui est resté avec nous, Catherine Perret, vous avez démarré cette prise de conscience et cette action à partir de quand?
On va dire début 2022. On a démarré en termes d'action. On a commencé par se dire par quel bout prendre, parce que le développement durable, c'est pas simple, c'est très large.
C'est vraiment tout neuf là.
C'est relativement récent, oui, effectivement. On s'est fait aider aussi par des agences pour nous conseiller aussi. Et puis très vite, il est apparu, il faut à la fois avoir effectivement un axe volontaire, mais il faut aussi faire participer l'ensemble des salariés. Et ça, c'est absolument essentiel. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut. Si ça vient d'en haut, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas.
Et des usagers, on les appelle comme ça?
Les salariés, les usagers, les résidents, parce que la Fondation Léopold Bellan a trois pôles, enfance, sanitaire et personnes âgées. Donc on est auprès de tous les âges. Donc en fait, il faut d'abord convaincre les salariés. En général, les familles, les résidents, les usagers, les enfants sont plutôt partie prenante. Et puis comme l'humain est au centre, de toute façon, on ne peut pas faire l'économie de l'humain. Donc on a commencé par se dire... Par où commencer? Eh bien, il faut faire un diagnostic. Si on ne fait pas de diagnostic au départ de nos façons de faire, de nos usages, et aussi tout ce qui se fait dans les établissements.
Et puis on parlait du bâti tout à l'heure.
Tout à fait, mais ça c'est une chose parmi d'autres. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans tous nos établissements, chaque directeur avait des actions déjà. Sauf qu'on ne le savait pas forcément au niveau du siège. Donc c'était très intéressant de faire un recueil de toutes ces bonnes pratiques qui étaient faites au sein de nos établissements et que l'on ne connaissait pas forcément. Les directeurs faisaient ça naturellement, pour eux, c'était c'est notre quotidien. Mais nous, on se disait, mais c'est formidable ce qu'ils font. Alors, ça pouvait aller aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau déchets, au niveau des aliments. Parce qu'en fait, quand on s'occupe de l'humain, on s'occupe de tout. On s'occupe de les loger, de les nourrir, de les accompagner, de les soigner. Donc, à tous ces stades de cette prise en charge, le développement durable intervient.
De les divertir, de les emmener quelque part. Donc absolument. Là, on parle de mobilité. Donc oui. Là, vous avez fait en fait une photo de ce qui existait. Vous avez découvert que sur la photo, il y avait des belles fleurs.
Il y avait des belles choses.
Et donc, vous avez rassemblé tout ça dans une boîte en disant, on va donner une priorité à ça, ça et ça, parce que ça existe déjà majoritairement, donc on va encore l'étendre. Comment vous avez fait vos
choix?
Alors
du coup, on a fait deux choses à partir de ce recueil. On s'est dit, on mutualise les bonnes choses, il faut partager les expériences pour qu'elles puissent aussi...
De quoi on parle quand on parle d'une bonne chose, par exemple?
Alors, les bonnes choses, par exemple, l'alimentation, ça concerne tout le monde, qu'on soit enfant, âgé, handicapé ou quoi que ce soit, nous devons tous manger. Donc, on mange quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Et puis, qu'est-ce qui se passe avant l'assiette? Qu'est-ce qui se passe après l'assiette? Donc, ça nécessite parfois de travailler avec aussi les restaurateurs, la restauration collective. Ça nécessite aussi de savoir s'il y a beaucoup de choses qui restent dans l'assiette, pourquoi ça reste dans l'assiette. Il faut associer à la fois le plaisir que les personnes peuvent avoir à manger, mais aussi la qualité des aliments qu'il va y avoir dans l'assiette. Comment ils sont produits, par qui ils sont produits, d'où ils viennent. Et ensuite, après l'assiette, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on peut en faire du compost, on peut mettre ça dans les potagers, dans les jardins. Comme ça paraît anecdotique, mais en fait, ça a un vrai changement de pensée. Il faut bien se dire que ça, s'intéresser au développement durable, c'est avoir une pensée vraiment qui est globale, qui est systémique. Et très vite, on se rend compte que dès qu'on met un doigt dedans, eh bien, on est vite happé par plein de choses, en fait. Et penser de façon systémique, ce n'est pas du tout quelque chose de logique. Il faut penser son EHPAD, son IME, son institut médico-social comme un écosystème, en fait. Et dans cet écosystème, tout est interdépendant.
Et quand on change quelque chose, ça bouge
absolument.
En bout de chaîne autre chose.
C'est toute la complexité et toute la richesse de la démarche.
Emmanuel Afonso, vous êtes toujours avec nous?
Toujours.
Vous qui avez démarré ça donc en 2014, là on a deux exemples un peu extrêmes, 2014-2022, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, Catherine Perret.
Absolument.
Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous êtes prêt à partager déjà les bonnes pratiques que vous avez mises en place avec vos collègues là, comme Richard Huet, Catherine Perret ou Céline Moser d'ailleurs qui nous a rejoint?
Oui, ben, on a participé ensemble avec Richard à un colloque sur une présentation des différentes actions. J'interviens aussi, je suis adhérent administrateur au niveau de Nexem, et j'interviens aussi au niveau de Didier. Et on a tout un travail de mutualisation, comme le disait l'intervenante auparavant, en interne, mais aussi entre associations et fondations. Parce que ce qui est difficile, c'est de démarrer. Ce qui a été dit, c'est ça. C'est un sujet qui peut être vertigineux. C'est comment on commence. Effectivement, le diagnostic est un bon départ. Et le fait de pouvoir se rencontrer, mais pas en disant, voilà, on a un temps d'avance ou autre, c'est pas du tout ça, en fait. Tout le monde a sa vitesse sur ce sujet-là, et parfois, c'est, effectivement, il y a des actions qui sont méconnues, mais de partager, de se dire, voilà, c'est possible, en fait, d'avancer sur ce sujet.
Richard Huette, vous avez démarré un peu entre les deux, là, 2017, avec un objectif à 2030 au sein du GAPAS. C'est combien de structures, le GAPAS, et combien de personnes ça touche?
Alors, le GAPAS, c'est 40 établissements et services répartis sur la région des Hauts-de-France et la région Île-de-France. On accueille plus de 1000 personnes en situation de handicap. Enfin 1200 même, et à peu près 1000 professionnels.
Alors comment avez-vous démarré? Parce que c'est la grande question. Par quoi on commence? Est-ce que c'est la photo que nous indiquait Catherine Perret en découvrant des bonnes surprises, ou est-ce que vous y êtes pris autrement?
Nous, historiquement, on a commencé parce qu'un établissement s'est intéressé au sujet. Et d'une politique d'établissement, on est passé à une politique associative. Et je confirme, sans diagnostic, on s'épuise. Donc, il faut avoir un diagnostic de départ. Alors, moi, je suis très bilan carbone. Donc, il faut avoir un diagnostic de départ qui permette d'orienter ce vers quoi on veut aller et les grands choix associatifs et politiques qu'on doit faire, parce que sinon, on se perd.
On ne parle pas que de carbone, Richard Huette. On parle d'humain. Et Catherine Perret le disait, on touche quand même. C'est systémique. C'est pas juste carbonique.
Non, mais après, il faut savoir par quoi on commence. Donc, en fonction des établissements, en fonction des associations, on a des appétences. Donc, c'est vrai que nous, on a une politique de développement durable qui est très carbone, qui est très énergie, qui est très mobilité, qui est très biodiversité, qui est très QVT. Et donc, il a fallu faire des choix à un moment donné sur 6 grands engagements pour ne pas perdre le fil et structurer une vraie démarche qui parle à tous.
Pour donner un exemple à Catherine Perret qui vient de démarrer, vous, depuis 2017, quel type de progrès avez-vous pu constater?
La diffusion du message, puisque c'est vrai que la question de la sensibilisation, de la compréhension et d'asseoir à l'échelle associative une politique de développement durable n'est pas simple. C'est ce que disait aussi Emmanuel, le premier écueil qu'on a, c'est celui-là. C'est-à-dire d'orienter une politique vers quelque chose qui n'est pas forcément compris comme étant sa mission première. Donc le gros écueil au départ, c'est celui-là. Et donc on est parti sur un travail de sensibilisation, sur des choses très pratico-pratiques, en s'appuyant sur ce qui existait.
Quel genre de choses?
On était au départ très sur l'environnement, puisque en France, la question du développement durable, la porte d'entrée, c'est souvent l'environnement, c'est souvent l'alimentation, c'est souvent les déchets, c'est souvent les déplacements. Donc on est sur ces sujets qui sont des sujets qui concernent les personnes qu'on accompagne, qui concernent les professionnels et qui concernent tout le monde.
Quand on parle de d'événements systémiques, Catherine Perret, est-ce que ça fonctionne partout?
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que quand vous vous intéressez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'alimentation, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ainsi de suite, ça marche rapidement dans tous les établissements de la Fondation Léopold Bellan, ou est-ce qu'il y en a qui tirent un peu, pas au flanc, mais bon, qui freinent un peu, qui disent non, mais nous on fera plus tard parce que là on a autre chose?
Ça marche assez rapidement parce qu'en fait, nous, à partir de notre diagnostic, on a fait des ateliers sur la base du volontariat, avec des salariés venant de tous les établissements, et qu'ils soient soignants ou pas, et sur 3 thématiques principales, la gestion des déchets, l'énergie et les achats responsables. On a choisi ces 3 axes.
Il n'y a pas cette peur de « mais ça va me changer mon boulot au quotidien, ça va me compliquer la tâche ».
Parfois, il y a des petites appréhensions, mais franchement, c'est pas du tout, ça n'a pas été bloquant, en tout cas, au sein de la Fondation.
Et Charuet, est-ce que ça peut être aussi un atout pour Didier Arnal a effleuré le sujet, mais pour l'attractivité de ces métiers, on en parle beaucoup, que de montrer qu'il y a aussi un engagement qui est au-delà du simple boulot?
On est sur un sujet qui est un sujet international, européen, national, global, territorialisé. Et c'est vrai que la question d'aller recruter des professionnels est au cœur des questionnements de tous les directeurs et de toutes les directrices des établissements.
On manque de gens, comme tout le monde?
Tout à fait, on manque de professionnels. Et cette dimension parle beaucoup aux jeunes générations. Et je pense qu'on a un vrai outil là pour mobiliser aussi en plus des outils de mobilisation qu'on a habituellement sur l'engagement, sur le don de soi, sur l'accompagnement. On a un vrai sujet qui va faire venir, je pense, beaucoup de nouveaux professionnels autour de la notion du care, parce que le care c'est quoi? C'est prendre soin des humains, c'est prendre soin de la nature, c'est prendre soin de la planète. Donc cette dimension là elle est globale.
C'est-à-dire que la planète va, elle, durer, alors que nous, c'est pas certain. C'est ce que me disait un invité il n'y a pas longtemps. Céline Moser nous a rejoint. Bonjour Céline.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin pour parler de ce sujet. Alors vous êtes, vous, la responsable RSE de la fondation OVE. Ça fait beaucoup d'acronymes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre job au quotidien et depuis quand vous avez opéré ce virage à la fondation ?
Alors... au sein de la Fondation OVE, donc, nous sommes environ 110 établissements et services autour du handicap. Donc c'est très varié, hein. Ça va de femmes, MAF, IME, EHPAD, CESAD. Donc on a tous les âges de l'enfance au grand âge, et avec une géographie qui va couvrir la France, y compris les îles. Donc une géographie très différente, rurale, urbaine, et des établissements très différents. Donc c'est à la fois une richesse et un peu une complexité pour le déploiement de tels programmes. Il y a eu deux phases à la Fondation OVE au niveau du développement durable. Une première phase qui était menée par la personne qui m'a précédée à ce poste, qui était aux alentours de 2015, où on était vraiment sur la prise de conscience avec pas mal d'organisations d'événementiels, donc d'événementiels participatifs par les établissements, autour du développement durable qui était davantage pris sur son pilier environnemental. Parce que comme ça l'a été dit par un autre participant, c'est souvent l'axe le plus évident, a priori. Donc il y avait déjà une belle prise de conscience quand moi j'ai pris le poste tout début 2020. Et finalement, le Covid a presque été une aubaine pour nous, parce que comme on a pu faire ce genre d'événement, on a dû repenser complètement notre action développement durable et réarchitecturer tout ça. Et ça nous a permis de passer sur, de construire, d'élaborer un schéma directeur, de recueillir les pratiques terrain et d'élaborer un schéma directeur qui nous permette de déployer ça de manière complète sur tous les établissements, avec une vision systémique, comme ça l'a été dit par une autre participante, et où tout le monde, voilà, d'être sûr que tout le monde déploie les choses en même temps. Et ça date de 2021, et on va dire avec un investissement très fort, un engagement très fort de notre direction à compter de 2022.
Alors vous avez fleuré du doigt un sujet dont on ne parle pas souvent non plus, parce que la France, ce n'est pas uniquement la métropole, ce sont aussi les territoires d'outre-mer. Vous avez une présence assez importante à travers OVE Caraïbes, je crois en Martinique et même sur d'autres îles caribéennes. Est-ce que la compréhension de ce virage, elle est la même en métropole qu'en dans les DOM-TOM?
Alors, elle est fatalement différente, puisque le développement durable, en tout cas c'est ma conviction, pour être pertinent, il n'y a pas de recette miracle qui marche partout. C'est contextuel. Une bonne solution est contextuelle. Donc fatalement, les bonnes solutions vont être différentes dans les Caraïbes et en métropole. Et j'insiste, la métropole, il y a plusieurs métropoles au sens du contexte, pratico-pratique. Mais en tout cas, sur les établissements qui sont dans les Caraïbes, il y a une prise de conscience qui est très claire et des actions qui sont menées. Par contre, c'est des actions qui leur correspondent. C'est individualisé, mais clairement, il y a une action également là-bas.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de différence ?
Si on parle des problématiques de bâtiments et d'énergie, on va pas être sur les mêmes problématiques liées à la température. Si on parle de la thématique très importante également de l'alimentation, qui a déjà été évoquée, on va pas être sur les mêmes productions, pas sur les mêmes problématiques, les dimensions également de coûts, les évoquer également. On va pas être sur les mêmes centres de coûts prégnant, que ce soit en métropole ou dans les Caraïbes.
Alors on va faire une courte pause.
Parmi tant d'autres.
On va faire une courte pause et on va se retrouver à parler boutique quelque part, parce que ça qui est intéressant, l'idée de cette émission, c'est de s'inspirer ou d'inspirer les autres, et notamment des chefs d'établissement qui voudraient peut-être s'engager aussi dans cette voie. Donc on va essayer sur la vingtaine de minutes qui va nous rester de donner des exemples les plus concrets possibles de comment ça marche, le développement durable et le médico-social. C'est sur Vivre FM dans Inspirez-vous. On se retrouve dans quelques instants.
Vivre FM,
la radio de toutes les différences.
des chansons d'amour au piano toutes mes gammes, au style tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer mon flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames. T'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme.
Inspirez-vous, Frédéric Loto.
Inspirez-vous sur Vivre FM, on parle de développement durable et de secteur, du secteur médico-social. Je vais reprendre avec vous Richard Huette parce que vous êtes arrivé un petit peu en avance. On est allé dans mon bureau puis vous avez repéré un indicateur. Alors moi je ne le gère pas, je vous ai même dit qu'il ne marchait pas et je ne pouvais pas l'actionner. Un indicateur qui montrait une température à 21,5, ça vous a choqué. Est-ce que voilà, on a un exemple de différence? Céline Moser nous disait bah là, les règles ne peuvent pas être les mêmes partout. Est-ce que là, par exemple, il y a quelque chose qui justifie qu'on soit à 21,5 et pas à 19 comme le veut la norme, c'est ça?
Alors oui, la norme française, le droit depuis, enfin, c'est une loi en fait hein, depuis 1974 qui est on chauffe à 19 degrés dans les bâtiments avec aucune clause d'exception, ce qui n'est pas la même chose sur la climatisation. Donc c'est vrai que quand je vois un bâtiment, alors après c'est un défaut professionnel parce que je circule dans tous les.
C'est peut-être l'indicateur qui marche pas non plus parce que je peux pas ni monter ni descendre ni faire quoi que ce soit. Hein.
Oui peut-être, mais ça veut dire que derrière quand on
vous
a.
Vous allez vérifier après l'émission, d'accord?
Oui non, pas, après je suis pas chauffagiste, mais quand on est sur une politique, voilà, Elisabeth Borne a reprécisé plan de sobriété dans les entreprises, 19 degrés, réduction de 10% des consommations énergétiques sur 2 ans. C'est des choses qu'on intègre directement dans le fonctionnement. Je sais qu'au GAPAS, on est parti sur un plan de sobriété énergétique, un plan de sobriété numérique sur 1 an. Pour réduire nos consommations de 10%. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Et forcément, mon œil va directement sur les thermostats, les températures pour atteindre nos objectifs.
Emmanuel Alfonso, quand on définit une norme pour l'ensemble des établissements d'une organisation, alors les papillons blancs sont une, mais là, on a quand même 3 ou 4 exemples autour de nous. Quelle est la marge de manœuvre qu'on peut donner aux chefs d'établissement en fonction des régions, des situations, des personnes accompagné, est-ce qu'on est rigide ou est-ce qu'on on essaye d'imaginer une marge de manœuvre?
Rigide sur ce sujet-là, non. Après, comme l'a dit Richard auparavant, il y a des objectifs qui sont donnés. On est sur des réductions et donc il faut jouer en équipe. Il faut vraiment jouer en équipe sur ces sujets-là. Donc on a des suivis aussi, on a des suivis au niveau de ces objectifs et la marge de manœuvre, elle est aussi sur l'innovation. Les directeurs peuvent aussi avoir des idées sur se dire, voilà, là, il y a telle possibilité de changement en termes de chauffage, ça vient d'être dit, ou en termes d'économie. Donc c'est comment on partage aussi. Donc c'est pas on impose, mais on échange.
Catherine Perret, quand on arrive assez tardivement sur un sujet, et on peut le dire comme ça, est-ce qu'on double les objectifs? Est-ce qu'on double la vitesse d'exécution pour essayer de rattraper un peu le temps perdu?
Non, pas forcément. Je pense que, encore une fois, ce qui est très important, c'est que tout le monde aille dans le même sens et ensemble, et ça demande un temps de pédagogie, d'information et d'adhésion. Donc il ne faut pas négliger ce temps-là, il vaut mieux, entre guillemets, perdre un petit peu de temps au départ pour convaincre et aller ensemble pour aller justement aussi plus loin après.
Vous avez quand même des objectifs, j'imagine.
Bien sûr. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est donné des objectifs en termes...
Sur d'autres sujets aussi?
Sur le domaine des déchets, de l'énergie et des achats responsables. Ce sont nos 3 grands axes de travail à l'heure actuelle au sein de nos ateliers. Donc, effectivement, l'énergie, comme le disait le précédent interlocuteur. Les déchets également, puisque le secteur est un grand pourvoyeur aussi de déchets. Hein. On l'estime à peu près à 1 tonne par an par lit, ce qui n'est pas négligeable. C'est quelque chose qui doit être aussi pris en compte. Et puis, les achats responsables, on n'en parle pas beaucoup. Mais là aussi, l'humain, on remet l'humain encore au centre. Hein. On est là pour prendre soin des personnes, comme comme vous le disiez, les achats responsables, c'est aussi se demander qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce que derrière, qui l'a produit, où ça a été produit. Et là aussi, ça pose tout un tas de questions où là aussi, on revient à une idée un peu systémique et aussi autour de l'humain.
Est-ce que ça peut passer, comme le font certaines entreprises, par du coup une imposition, c'est-à-dire une entrée dans le cahier des charges de certaines normes que vous voulez voir respectées par vos fournisseurs ?
Ça peut aller jusque-là, mais d'abord, il faut commencer par la conviction. Et il faut commencer par convaincre. Et puis aussi adopter une posture de partenariat avec nos fournisseurs, avec les gens qui nous approvisionnent, avec les gens avec qui on travaille. C'est aussi une autre posture de travail. Mieux vaut un bon partenariat que essayer d'imposer des choses qui ne vont pas toujours être bien acceptées.
Et puis peut-être ceux aussi qui, au bout de la chaîne, consomment les aliments. Ils peuvent aussi donner leur avis, parce que c'est bien de fixer des règles, mais si la soupe aux choux n'est pas bonne, il faut...
Encore une fois, le bien manger est essentiel, aussi bien pour la santé que pour le plaisir.
Céline Moser, vous êtes responsable RSE de la Fondation OVL. On entend des mots, pédagogie, accompagnement, ça prend du temps, tout ça. Il y a quand même un droit du travail au milieu de tout ça. Comment on fait pour avoir lancé la partie un peu plus formelle de discussion avec des personnels? La Fondation OVL, c'est combien c'est plusieurs milliers de personnes.
2800 collaborateurs environ.
Près de 3000 collaborateurs. Est-ce qu'à un moment, il y a un cadre juridique aussi pour leur faire passer ces messages et leur délivrer ces objectifs tout en essayant de les inciter?
Alors, le cadre réglementaire, il y est, bien entendu. Je ne vais pas être la meilleure interlocutrice de la Fondation pour vous parler de ce cadre-là. Je rebondis sur ce que disaient les autres participants. Effectivement, l'effort pédagogique est très important. Il faut avoir en tête qu'on a un problème d'attractivité dans le secteur, donc s'en servir plus comme d'un levier que comme d'un repoussoir. Notamment, outre le fait que le développement durable fasse sens, notamment pour les jeunes générations, nous, la manière dont on prend le sujet, évidemment, on va être sur du décret tertiaire, des choses en termes d'isolation de bâti, etc., d'achat responsable, mais en amont, ce qui est très important dans notre plan, c'est la sobriété. Donc les achats qu'on fait qui sont responsables, mais aussi en amont, tous ceux qu'on ne va pas faire. Et d'avoir un prisme, un schéma de questionnement amont assez différent. Aussi, on est persuadé que, outre les contraintes du développement durable, c'est aussi une belle opportunité pour nos personnes accompagnées et que la société de demain autour de la sobriété et de la transition durable sera peut-être plus facilement inclusif finalement. C'est peut-être une chance et un virage qu'on a à prendre de notre côté. Et ça, au-delà des aspects réglementaires, évidemment qu'on respecte le droit du travail, mais c'est quelque chose qui fait sans doute sens pour nos collaborateurs qu'ont le bien-être et l'avenir de nos personnes accompagnées absolument chevillé au corps. Et je pense qu'à partir du moment où, à travers nos messages pédagogique interne, on aura pu faire passer ce message auprès de nos professionnels, ça risque de booster assez facilement les initiatives et l'engagement de tous sur le sujet.
On entend bien la démarche, l'intention, le fait que vous bottiez en touche tout à fait légitimement si ce n'est pas votre sujet. Richard Huette, Catherine Perret, Emmanuel Afonso, est-ce que vous avez une réponse justement sur cet accompagnement légal de ce genre de mouvement? Parce qu'à un moment, il y a quand même des personnels et beaucoup de personnels qui sont concernés et on ne peut pas juste avoir une déclaration d'intention et puis attirer les gens dans un mouvement très positif, très joli. Il y a aussi une discussion qui se passe autour de la table avec des syndicats. Comment ça se passe concrètement?
Il y a les négociations annuelles obligatoires qui sont présentes et qui permettent aussi de travailler avec les différents élus. Un exemple très simple, on a discuté, nous, et fait un accord d'entreprise avec les élus sur la mobilité pour mettre en place un plan de mobilité, un accord d'entreprise sur la mobilité qui a été négocié avec eux, signé avec eux. Et donc, le cadre réglementaire, il permet aussi maintenant, en plus, il y a des ouvertures sur les compétences des CSE, des CSEC. Donc, c'est des acronymes, des conseils.
Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Allez-y.
Donc, expliquez. En fait, c'est ce qui a, pour être très, très schématique, c'est ce qui a remplacé les comités d'entreprise.
D'accord.
Et donc là, ce sont des partenaires qui sont des relais aussi auprès du terrain, auprès des collaborateurs. Donc, on travaille avec eux sur... Dès qu'on sort quelque chose, un nouveau texte, un plan de sobriété, on le présente, on travaille avec eux et on les sollicite.
Emmanuel Afonso et Catherine Perret, la question s'adresse à tous les deux, donc vous répondrez l'un après l'autre. Quand on a des publics qui sont fragiles, qui ne comprennent pas tout, Et vous voyez de quoi je parle. Est-ce que c'est facile aussi de leur faire prendre conscience de ne pas jeter ci à tel endroit, de ne pas gaspiller ça à tel endroit? Voilà, tous ces gestes que vous essayez de mettre en place ou ces décisions que vous prenez, comment les faire comprendre à des gens qui vont être déficients mentaux, qui vont avoir des soucis cognitifs au point d'ignorer quelque part vos messages? Catherine Perret, peut-être en premier?
Je pense que ça fait appel à un peu de créativité. notre métier, c'est quand même d'accompagner. Donc, même quand c'est plus difficile, même quand effectivement, il y a des choses que, sur lesquelles ça va être plus difficile de communiquer, mais avec un petit peu de créativité, ça peut être par des dessins, par l'humour, par l'accompagnement. On arrive à plein de belles choses. Maintenant, on n'est pas au 100% non plus, faut absolument pas jeter, on n'est pas dans une politique non plus, on reste humain malgré tout, avec toutes nos différences, on est tous singuliers, donc il faut prendre en compte ça, mais c'est le propre de notre métier.
Et ce monde n'est pas parfait.
Voilà.
Emmanuel Afonso, vous avez-vous des méthodes particulières pour intégrer ces messages dans la tête de tout le monde, mais vraiment tout le monde?
Alors oui, un exemple, mais là qui est vraiment très très récent, parce qu'il date d'hier, on a testé une application qui s'appelle Ma Petite Planète, qui est plutôt destinée soit au monde de l'entreprise, soit au niveau scolaire. Le principe, c'est d'avoir des défis écologiques, et on était a priori la première association à tester ça, donc c'est sur 3 semaines, et vous avez des défis qui sont surtout une sensibilisation, par exemple finir son assiette pour sensibiliser sur le gâchis alimentaire, et on a pu lancer en fait ce défi et sensibiliser toute l'association avec les professionnels et les adultes, et ça a permis un accompagnement. Alors après, il fallait adapter l'application qui n'était pas à destination de nos publics, donc ça c'est les professionnels qui ont joué le jeu et qui ont bien joué le jeu, et ça a permis d'être au plus près finalement de chaque adulte et enfant qu'on accompagne pour le sensibiliser sur cette thématique, mais surtout pour que ça fasse sens.
Céline Moser, vous avez parlé d'un plan d'action qui est précis, vous avez une feuille de route. Cette feuille de route, là, elle vous mène à quelle date et sur quel type de sujet prioritaire? Parce que là, on voit avec Catherine Perret que c'est plutôt l'alimentation. Du côté de Richard Huet, c'est plutôt globalement l'énergie. Est-ce que
pas que.
C'est plutôt, j'ai dit, mais pas que, évidemment. Du côté de la Fondation EVE, est-ce qu'il y a aussi un ou deux grands thèmes qui sortent du lot?
Fin 2026, et on a deux grands axes, un axe RSE et un axe développement durable dans la citoyenneté des personnes accompagnées, où on les met en acteurs, on a choisi de découper les choses comme ça, et avec trois sous-axes qui sont très importants pour nous. Le premier, c'est le fait de, en tant que personne accompagnée, réexpérimenter par moi-même la nature, parce que on est dans une société qui est un peu éloignée de ça et peut-être encore davantage sur nos publics. Et le deuxième, c'est être soi-même consommateur responsable, pas parce que l'institution ou le service avec lequel je travaille ou dans lequel je vis consomme responsable, mais parce que moi, j'ai compris et je fais cette démarche. Et enfin, le fait de les placer comme eux-mêmes promoteurs de la transition durable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur.
Merci. Il nous reste quelques minutes. Et j'ai une question qui va s'adresser à tous les quatre. Alors, je pense que je vais commencer par le plus ancien dans le domaine, Emmanuel Afonso. Je vais appeler ça la séquence top et flop. Qu'est-ce que vous avez réussi? Un point que vous avez parfaitement réussi, dont vous êtes fier, et puis un point aussi où vous avez moins bien réussi, on va dire.
Là où on a réussi, je pense, c'est à faire que le sujet soit vraiment partagé au niveau des professionnels, des adultes et des enfants qu'on accompagne, du conseil d'administration. Le flop, ce serait la vitesse à laquelle finalement on arrive à faire cette bascule. On aurait aimé aller plus vite, que ce soit au niveau du bâtiment, au niveau des mobilités, et on est sur des séquences longues, alors on dépend de finances publiques, mais ce serait plutôt ce flop avec cette vitesse qu'on souhaiterait plus élevée.
Richard Bay.
La réussite, c'est le fait que le développement durable soit une pierre angulaire de la vision 2030 de l'association. Donc là, on a un vrai objectif sur maintenant 8 ans, mais c'était sur 10 ans. Donc là, c'est une vraie réussite, puisque c'est un travail collectif qui est assez admirable. Le flop, c'est, je vais reprendre un peu ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours le sentiment que ça ne va jamais assez vite, et que les enjeux qu'on a face à nous, qui sont des enjeux colossaux, et dont on est, nous, une partie peut-être petite, mais vraiment un acteur très, très, très important, parce que je rappelle, hein, 900 000 emplois quand même dans le secteur du médico-social, 30 000 établissements et services, donc gros acteur, que ça va pas assez vite et qu'il faudrait aller beaucoup plus vite.
Aujourd'hui, sur l'ensemble de ces établissements, combien sont déjà dans cette démarche-là et combien n'y sont pas, par exemple, vous le savez, ça ?
Nous, ils y sont tous, puisque c'est dans...
Pas que du GAPAS, mais puisque vous avez une vision un peu plus haute aussi.
Je pense que c'est un mouvement. Enfin, moi, je suis beaucoup, donc je vois les postes de chargé de mission arriver de plus en plus dans les associations. Donc, je vois qu'il y a un vrai engouement et je pense que le secteur médico-social, le secteur de la santé, le sanitaire est bien branché aussi via les hôpitaux et via la dimension publique et les obligations sur le public. Est très, très acteur. Donc c'est le mouvement, ça y est, il est parti, quoi.
Catherine Paré, peut-être la question est-elle un peu plus compliquée pour vous, parce que c'est tout neuf, mais il y a peut-être déjà un top et un flop.
Je dirais que le top, vu le côté récent de notre démarche, on a réussi à vraiment instaurer des ateliers incluant l'ensemble de nos établissements sur la base du volontariat. Donc on travaille vraiment maintenant régulièrement dans ces ateliers sur les déchets, les achats responsables et énergie. Donc je pense que c'est une grande réussite parce qu'en peu de temps, finalement, on a réussi à mobiliser. À faire notre recueil à partir d'un diagnostic. Donc, on a fait beaucoup de choses. Puis, je dirais presque, mais sans prétention, c'est tellement récent et on n'a pas vraiment encore eu de flop.
D'accord. C'est une démarche très, très humble.
Parce que c'est récent.
Pas de souci, j'ai compris. Céline Moser pour la Fondation OVE, même question, avec un recul quand même pas non plus ridicule, mais pas important. Est-ce qu'il y a un succès particulier que vous voulez partager ? Et j'espère que vous n'aurez pas la même réponse que Richard Huette et Emmanuel Alfonso sur la rapidité d'exécution.
Alors malheureusement, j'ai presque exactement la même réponse que précisément Emmanuel et Richard sur le top et le flop. J'ai mis enfin un tout petit peu le top parce qu'on est un peu moins ancien que sur le déploiement. Donc, l'engouement de la direction et son engagement est vraiment un beau succès. Et on a plus d'hétérogénéité sur l'engagement terrain. Parce que on est plus récent sur le déploiement structuré et systématique sur toute la fondation. Mais globalement, je vais être vraiment sur les mêmes top et flop, oui. Désolée.
Didier Arnal, vous aurez un mauvais point. Voilà. Didier Arnal le disait en ouverture de cette émission, c'est rare d'avoir une émission sur ce thème-là. Vous êtes tous engagés dans une voie qui est très importante, qui à la fin va créer un mouvement quand même sur un certain nombre de millions de personnes peut-être, hein, parce que si on compte tout, les familles aussi, et ainsi de suite, ça fait beaucoup de monde sensibilisé. Est-ce que vous pensez à un moment ou à un autre, et là vous me répondez en un éclair tous les quatre, à communiquer sur ces actions ?
Constamment, c'est-à-dire qu'il faut raconter tout ce qu'on fait, raconter encore et toujours pour expliquer et montrer que c'est possible.
Emmanuel Alfonso ?
Il faut suivre, il faut communiquer justement pour qu'il y ait cette adhésion dont on parlait. Donc c'est un travail constant, puis c'est aussi notre présence ce matin sur ce sujet. Donc c'est vraiment important de communiquer, de mettre les réussites en avant.
Catherine Perret ? L'alimentation, mais aussi communication ou
pas le faire savoir, oui, est un axe absolu de travail. C'est pas facile, c'était pas habituel pour la Fondation. C'est comme vous le disiez, elle n'est pas forcément très connue du public. Donc le faire savoir est un gros axe de travail au sein de la Fondation aujourd'hui.
Céline Moser, est-ce qu'il y a un volet communication externe au sein de la RSE, à la Fondation OVE ?
Oui, et qui est très important. C'est important de sortir du développement durable coercitif, on va dire, et de proposer un nouveau récit collectif et positif, et puis aussi d'avoir l'ambition de faire tache d'huile sur la société autour de nous, par les familles, par les collaborateurs, les familles des collaborateurs, etc.
On a fait un beau tour d'horizon de cette thématique qui pourrait durer un peu plus longtemps. Je vois Richard Huet un peu déçu de ne pas avoir abordé tous les sujets. Vous reviendrez en parler, n'inquiétez pas, puisque c'est dans l'air du temps, parce que ça, c'est aussi un avantage quand même pour vous tous et toutes. C'est qu'on en parle dans les médias et que la sensibilisation, finalement, elle vient d'une manière générale sur la population sur ce sujet-là en ce moment, ça ne peut que vous aider à avancer encore plus vite et donc résoudre tout votre flop commun quasiment, qui est la rapidité d'exécution. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous ce matin dans cette émission spéciale Inspirez-vous sur le développement durable et le secteur du médico-social. Merci donc à, je vais commencer par ces dames, Catherine Perret, la référente développement durable de la Fondation Léopold Bellan, Céline Moser, la responsable RSE de la Fondation OVE. Et puis merci à vous deux, messieurs Emmanuel Afonso, le directeur général des Papillons Blancs de Seine-Maritime. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Et Richard Huet, qui a fait le déplacement depuis le Nord ce matin. Pour nous rejoindre, vous êtes le chargé de mission développement durable du GAPAS. On reparlera de ce sujet, je vous le promets. À très bientôt. Et restez à l'écoute des programmes de Vivre FM.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.